Ouais, vous écoutez le Club du Matin avec Anthony Marcotte et Anthony Desaulniers. Et maintenant aussi, Fred Daigle avec nous. Salut Fred!
Salut Fred!
Hey, bonjour messieurs, ça va bien?
Ah bien toi?
Très bien, merci.
Ouais, Anto parlait d'un point intéressant. Ce serait le fun de t'entendre là-dessus, Fred. Avant la pause, on disait les Alouettes, le CF Montréal en même temps, dans la même ville. Est-ce qu'on pourrait pas éviter ce genre de choses-là? C'est quoi ton opinion générale là, sur la situation?
Ben, samedi soir, je sais pas combien il y avait de monde au stade Saputo. Je présume 20 000 personnes. À Percival Molson, il y avait 21 144 personnes. Ça veut dire qu'on avait probablement 40 000 personnes et plus à Montréal pour voir du sport pro le même soir. Puis, on essaie de nous faire croire qu'on serait pas capable de faire vivre un club de la MLB. Je crois pas à ça. Puis, malheureusement, les ligues peuvent pas toujours attendre après l'autre pour sortir leur calendrier, fait que ça va arriver. Ça arrive toujours à peu près une fois par saison que le CF et les Alouettes jouent le même soir. Puis sa galerie de presse aux Alouettes, en tout cas, on se dit toujours la même chose. Il y a 40 000 personnes à Montréal pour voir du sport pro. Et c'est plein aux deux places quand ça arrive. Alors, peut-être que certains ont des billets aux deux endroits. Je connais au moins une personne là, qui me suit sur les réseaux sociaux qui doit faire un choix dans ce temps-là, mais souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des heureux pour le match qu'il choisit de ne pas aller voir en donnant ses billets. Il y a de la place. Montréal est le plus gros marché. Anthony disait probablement le plus gros marché. C'est le plus gros marché en Amérique du Nord qui a pas de club de la MLB ou de la NBA.
Mais en même temps, si je me fais l'avocat du diable, parce que honnêtement, je serais très heureux de revoir le baseball majeur. Là. Je pense que ça, vous savez si vous me suivez depuis assez longtemps. Sauf que c'est pas la même chose de voir 40 000 personnes un samedi soir et être capable de soutenir une équipe de baseball majeur 81 matchs par année, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi après-midi.
Pendant des années, ça a déjà été un des billets les plus chauds, pas en ville, en Amérique du Nord. Il y avait que les Yankees et les Dodgers qui attiraient plus que les Expos au début des années 80. Quand t'as une bonne équipe sur le terrain, vendre des billets, c'est pas un problème. Puis là, on parle pour rien dire, tu vas dire, là. Le projet, c'était de ramener le baseball majeur dans l'Est américaine, là.
Ouais.
Mais contre les Blue Jays, mais contre les Red Sox, contre les Yankees, là, c'est des matchs à guichet fermé. Fait que t'en as au moins 50 par année qui sont réglés.
Ah,
il t'en reste 30 à vendre.
T'as raison. Non, non, mais moi, pour vrai, écoute, demain matin, si je pouvais...
Moi, c'est sûr que si le baseball revient, je me mets avec une coupe de mes chums pour acheter des billets de saison.
Ouais, c'est sûr que je fais partie de ces chums-là.
C'est sûr.
Non, mais c'est vrai, tu te mets 8 personnes, tu te mets une douzaine de personnes, puis t'achètes 4 billets.
4 billets collés.
Puis là, après ça, ben tu te fais un pool. Puis là, ben regarde, moi, je prends tel jour. Puis après ça, hey, ça te coûte des peanuts. Tu vas avoir 15 games peut-être dans ton année en business.
Absolument. C'est clair. Puis, le dossier, c'est pas aucun de nous trois qui va acheter un club du baseball majeur. Là, mais
on déchirait
notre chemise pour un éventuel stade à 600 millions. Là, on met 1 milliard sur rénovation au stade olympique. Tant mieux si ça fait du stade un endroit qui va attirer plus de sport et de grands événements. Mais l'intérieur aura toujours pas été refait. Ça va toujours avoir l'air d'un goulag russe du début du 20e siècle. Là. Des coursives comme ça, il s'en fait plus dans le sport professionnel.
Non.
Quand tu vas acheter ton hot dog dans n'importe quel stade qui se respecte dans le monde, tu vois l'air de jeu.
Ouais.
Au stade olympique, t'écoutes ça sur des vieilles TV cathodiques 20 pouces. Là.
Ouais.
Alors, tu sais, je veux dire, il va rester encore un autre milliard à mettre en réno là-dedans. Puis on n'aura toujours pas de club à temps plein dedans, peu importe la ligue.
Ouais, j'ai hâte de voir si le stade pourrait pas accueillir la Coupe Grey dans quelques années, parce que la Coupe Grey à Montréal, on voit pas ça, parce qu'on peut pas à cause des installations.
2008, la dernière fois.
Tu sais, ça fait un méchant bout. Parce que les Alouettes de Montréal ont une bonne formation. Encore une fois, cette année, c'est une équipe qui devrait être capable de faire des dégâts. Malheureusement, elle s'est un peu tirée dans le pied en fin de semaine. Fred, écoute, se passait bien. On sentait la victoire, elle était là, et malheureusement, elle nous a glissé entre les doigts. Je veux pas envoyer un joueur en dessous de l'autobus, mais mettons que Pierre-Olivier Lestage s'est pas aidé avec sa punition en fin de match.
Ouais, alors, pour les gens qui ont peut-être pas vu le match, les Alouettes, avec 28 secondes à faire, inscrivent un placement qui porte la marque 20-18 pour les Alouettes. 28 secondes à faire, tu dis, écoute, c'est fait, mais sur le jeu, après le jeu, Pierre-Olivier Lestage a écopé d'une pénalité pour conduite antisportive. Moi, j'ai pas vu le geste, mais ce qu'on a expliqué au banc des Alouettes, c'est qu'il a poussé un adversaire après le jeu. Puis les arbitres dans les célébrations veulent que ça reste propre. Alors on surveille de près habituellement. Il s'est fait prendre 15 verges. Avec 2 dixièmes de seconde à faire, Sean White a réussi un placement gagnant sur une distance de 48 verges, de 43 verges.
43 verges, ouais.
Et 43 verges, donc, avec la pénalité de 15 verges qui a été appliquée aux Alouettes. sur le botté d'envoi après le placement, parce que dans les trois dernières minutes dans la Ligue canadienne, l'équipe adverse reprend pas le ballon à ligne de 40 comme elle peut le faire dans le reste du match. On est obligé de botter. Alors, au lieu d'être 43 verges, ça aurait dû être 58 verges sans cette pénalité-là. Puis il y en a plusieurs, bon, qui ont un peu mis la faute sur l'estage, mais c'est pas un jeu, un match de football, quand tu perds par un point à deux dixièmes de seconde de la fin, là. Charleston Rambo a échappé une passe. Il se fait deux matchs qu'il échappe des passes dans les mains. Il va falloir qu'il retrouve ses mains, là.
Ça, c'est un touché, là. Fred, j'ai l'impression de me répéter, oui. Mais encore une fois, ça te permet d'avoir le rythme de McLeod Bethel-Thompson. Ça te donne la confiance à ton corps arrière. Ça, c'est un touché garanti.
Au lieu d'être 7-0, c'est 14-0.
Ben oui, exact.
Il avait battu son receveur. Il était à peu près 6 verges en avant, puis je pense à une 20-25 verges de la zone début, là. Ma mémoire peut me faire défaut là-dessus, mais il est fin seul, là. S'il se rend pas dans la zone début, les Alouettes sont dans le red zone, qu'on appelle la zone payante, là. Puis des bonnes chances d'inscrire au minimum 3 points sur cette séquence-là. Même à 10-0, c'est un match différent qu'à 7-0, puis t'es obligé de dégager le ballon sur le jeu suivant. Alors, t'as ça. Travis Tice, à un moment donné, qui fait des miracles depuis le début de la saison, qui échappe à des plaqués comme ça fait longtemps qu'on a pas vu à Montréal. Deuxième et quatre, je pense. Petite passe dans les flancs. Il y a à peu près 10 verges en avant de lui. C'est sûr que ses yeux sont dirigés vers le terrain avant que le ballon soit direct bien saisi dans ses mains. Il a échappé, c'est pas ça. Il n'y a aucune raison. Il n'y a personne à 15 verges de lui. Il aurait facilement ramassé le premier jeu. Au lieu de que l'attaque se poursuive, t'es obligé de dégager le ballon là-dessus. Et puis, ben, c'est deux jeux-là. Ben, tu regardes les stats de McLeod Bethel-Thompson, qui est 15 en 23 pour 192 verges dans ce match-là avec deux touchés. Ben, il franchit facilement le cap des 200 verges. Au lieu d'être 15 en 23, c'est minimum 17 en 23. Son taux de réussite est meilleur. Et puis, il y a probablement une troisième passe de toucher. Ça devient un match drôlement plus intéressant au point de vue statistique. Puis, c'est clair que les statistiques, à un moment donné, à l'attaque, ils vont beaucoup au corps arrière. Mais pas toujours de sa faute quand l'attaque marche pas non plus.
Ouais, en même temps, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable dans l'autre sens, mais tu sais, mettons ses stats, le cheat Tyson Philpott, on s'entend que c'est une passe d'une verge qui s'est transformée en un très long gain. Fait que ça, faut t'en prendre et t'en laisse. Tu sais, ça va dans les deux sens. La chose, ben par contre, que j'ai trouvé qui était intéressante par rapport à la semaine dernière, c'est le jeu au sol. On avait complètement abandonné l'attaque au sol. C'est comme si on n'avait pas confiance de donner le ballon à nos porteurs. Et là, à quelques occasions, Sean Tomerlington a réussi à exploser, s'en va au deuxième niveau. Même t'as parlé de Travis Tice. À un moment donné, j'étais convaincu qu'il était arrêté, puis vote sur lui-même, réussit à déborder, va chercher le premier jeu. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'on faisait plus confiance à nos porteurs, parce que t'enlèves de la pression à McLeod Bethel-Thompson.
Exact. On a ramassé quelque chose comme 130 verges au sol, 76 pour Sean Tomerlington, qui a connu un excellent match. Lui aussi, à un moment donné, il y avait trois joueurs des Lions qui l'accrochaient après une course de deux verges. Tu dis, bon, c'est fini, ce course-là. Ben non, il est arrêté à peu près 12 verges plus loin, finalement. Alors, on a vu de très belles choses. Malheureusement, quelques jeux seulement ont fait tourner le vent. Puis, les Lions, ben, Nathan Rourke, on en parlait la semaine passée, 352 verges. C'est la défense, il était à quelque chose comme 260 verges avant la dernière poussée. La défense des Alouettes avait fait le maximum contre lui. Il y avait eu seulement qu'un gros jeu quand Marc-Antoine Decoy s'est fait battre un peu. Mauvais jeu de pied en pivot est tombé. Puis là, ça a donné un très long toucher du côté des Lions. Mais enlève ce jeu-là. Là, on avait été capable de contenir Nathan Rourke pas mal. Là. Ça avait pas été un grand match de Rourke, mais les bons quarts arrière font ça, hein. Il a amené son équipe à distance de placement sur la dernière poussée du match, puis les Lions sont sauvés avec la victoire.
Hey, ça, je veux t'entendre là-dessus, parce que c'est pas la première fois que j'en parle, puis c'est une affaire qui m'énerve beaucoup. Souvent, lorsque on tente une poussée victorieuse comme ça en fin de match, les défensives sont très passives. T'sais, on a peur de se faire brûler dans les zones profondes, fait qu'on concède régulièrement la passe de 8 verges, 10 verges, 12 verges, 15 verges. Mais là, ça fait en sorte que l'adversaire est capable de remonter le terrain rapidement parce que on leur donne tellement un coussin, on est tellement conservateur dans notre approche que là, ben, c'est réussite sur réussite sur réussite. Fait que même si les Lions, parce que je pense que c'est 22 secondes, le botté c'était à 28, mais je pense que c'est 22 secondes que Nathan Rourke s'est amené sur le terrain, On n'a eu aucun problème de se ramener en situation de placement. Pourquoi les défensives sont autant passives? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de juste se dire on continue à jouer normalement, puis il y a juste le maraudeur en arrière, soit plus conscient, puis évitons la bombe, oui, mais arrêtons de donner tout le temps les passes faciles de diverge. C'est tout le temps comme ça. CFL, NFL, name it, RSEQ, c'est tout le temps le même refrain, Fred.
Hey, ça, c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse pour vous autres ce matin, mais c'est quelque chose qu'on constate, nous autres aussi. On se dit tout le temps, Kim, cette défensive-là, et c'est pas juste les Alouettes, là. Et comme tu le dis, on le voit dans toutes les équipes, dans toutes les ligues. T'as été agressif tout le match, ça t'a rapporté passablement de succès, puis là, parce qu'il reste pas beaucoup de temps au tableau, puis que tu protèges une avance, on dirait que tu donnes plus de jeux courts et moyens, mettons.
Exact.
Et puis effectivement, ça permet à ces équipes-là de se rapprocher, puis ces botteurs-là, là, des bottés de 50 verges aujourd'hui, on va les essayer, là. Tu sais, alors, on dirait que cet ajustement-là chez les coordonnateurs défensifs ne s'est pas fait encore. J'ai hâte de voir vraiment une équipe qui va continuer à mettre autant de pression. Écoute, tu vas chercher un sac, là, dans cette dernière séquence-là.
C'est fini.
Tu recules les lions de 6-7 verges. C'est aussi payant que de les arrêter plus loin sur le terrain, là. C'est comme tu dis, Anthony, la séquence est presque finie à ce moment-là.
Exact. Non, mais c'est juste, des fois, je me dis, Colin, les gars, c'est votre défensif qui vous tient en vie depuis le début de la saison. C'est le fait que vous êtes capable de vous planter les pieds puis d'arrêter l'adversaire, être pas capable de prendre de rythme. Rapidement, on les arrête pis on les sort du terrain. Mais là, on est passif parce qu'on veut protéger l'avance. Mais au contraire, on leur donne la corde, on leur donne de l'espoir, puis finalement, on se fait avoir autre chose sur la défensive. Est-ce qu'on n'aurait pas dû être un peu plus conscient de la situation? Lorsqu'il reste, je pense que c'est 3 secondes au cadran, puis qu'on fait une passe rapide, puis le receveur le passe, abandonne littéralement. Là, il plonge par en avant, il espère être plaqué rapidement. Les joueurs des Alouettes lui ont sauté dessus tout de suite. On a juste à être patient une seconde ou deux de plus. On y touche après que le cadran frappe zéro. Le match est terminé, Fred, là.
Ouais, je pense que ça, c'est des réflexes, par contre, qui sont instaurés. Là, tu vois un gars que dès que tu y touches, sa progression est arrêtée. Je pense que sur tous les jeux dans un match, sauf peut-être ce jeu-là, quand il reste quelques secondes à égrener seulement, ton réflexe, c'est de le toucher.
Oui, t'as un réflexe qui est ça, mais en même temps, il me semble que si je suis un entraîneur sur les lignes de côté, ça. Hey les gars, si on est capable de le contenir, parce que tu le sais là que c'est pas loin du placement, là, s'ils font une passe courte dans le milieu du terrain, attendez avant de l'envoyer au sol. Tu sais, évidemment, si le gars il essaie de passer à côté de toi, tu le frappes, là. Mais du moment qu'il est en train de tomber, il me semble qu'on aurait pu être un petit peu plus alerte pour le personnel d'entraîneur.
Ouais, c'est une bonne question. Faut dire aussi que le jeu se passait complètement à l'autre extrémité. On était vis-à-vis le banc des Lions et non pas vis-à-vis le banc des Alouettes. Est-ce que le message s'est moins bien rendu? C'est une question à poser, mais effectivement, faut que tu sois conscient du temps aussi en même temps que de l'endroit où tu te trouves sur le terrain.
Mmh. En tout cas, c'était ma petite montée de lait pour le matin.
Mais là, Fred...
Écoute, il y en a des éléments. José Matos a frappé le poteau sur un placement. Tu peux même pas espérer un point dans ce temps-là. Quand tu touches les montants, le jeu est arrêté. Il y en a un paquet de petits jeux qui expliquent cette défaite-là.
Donc, départ de 3-0 pour les Alouettes. Ils sont à 3-2, arrivent dans une semaine de congé. Vont reprendre l'action seulement dans 10 jours, le 17 juillet, alors que les Argonauts de Toronto vont être en ville. À ton avis, dans la deuxième tranche de la saison, quels sont les correctifs? Comment les Alouettes peuvent être meilleurs à partir de maintenant?
Ben, pas avoir leur corps numéro 1 blessé, puis ça, ils peuvent pas faire grand-chose pour sûr. Ça.
Mais après, peut-il être là, à ton avis, ce que t'en sais, finalement, Alexander, pour la semaine prochaine?
Est-ce qu'on peut tomber dans le piège de le précipiter aussi?
Ouais, là? C'est ça.
Ben, moi, ça, je pense pas. On va répondre à cette question-là en premier, OK? Les Alouettes sont conscients que c'est pas les matchs en juillet qu'ils veulent gagner, c'est les matchs en novembre. Alors, je pense qu'on va laisser tout le temps nécessaire à Davis Alexander afin qu'il revienne à 100%, parce qu'un claquage, comme il a été victime d'une blessure aux ischio-jambiers, si c'est pas guéri comme il faut, ça revient presque 100% du temps. Et avant le match de samedi, il était en uniforme puis il lançait des ballons sur les lignes, tu sais, sur le terrain pendant l'échauffement, mettait aucun poids sur sa jambe gauche. Lançait exclusivement sur sa jambe droite. Il n'y avait pas de transfert de poids. Alors, pour ainsi dire, il lançait du bras, là. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, là, quand tu penses qu'un gars est proche d'un retour au jeu. Ouais. Cela dit, On est, comme vous le dites, on a une semaine de congé, pas d'entraînement. Il va subir des traitements, c'est clair, dans cette semaine-là. Et il ne revient au jeu que le 17. Alors, les Alouettes vont probablement reprendre l'entraînement le lundi de cette semaine-là pour un match le jeudi. On espère qu'il revienne. Mais s'il n'est pas prêt à revenir, il va revenir la semaine d'après. Les Alouettes sont encore en tête de la section Est. Il y a une équipe seulement à 2 victoires après eux autres. C'est les Tiger Cats de Hamilton. Ottawa et les Argos sont à 1 victoire, 4 défaites pour l'instant. Et Jason Moss, après le match, le disait, bon, on a connu un bon départ, soit on s'en fout du départ, on divise pas la saison entière, nous autres, on y va match par match, puis on essaie de gagner chaque match quand c'est le temps. Et il dit, les Tiger Cats, le Rouge et Noir, les Argos, on va tous les revoir cette saison, puis on va essayer de tous les battre à chaque fois. Alors, vraiment, je pense que pour voir à long terme, on pense à court terme chez les Alouettes. Ici, à court terme, il faut se priver de Davis Alexander, un autre match. On va le faire.
Intéressant, Fred. Très bon. J'ai hâte de voir. Ah, t'en as une autre, Tony, vas-y.
Ben oui, j'ai une autre question. Faut absolument parler de la mêlée en fin de match.
Ah ben oui, c'est vrai.
C'est l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as pu apprendre après dans le vestiaire? Ce qui s'est dit? Il s'en allait où, lui, là? Essayer d'aller rentrer dans le vestiaire des Alouettes. C'est passé quelque chose sur le terrain, certain.
Même Jason Moss qui saute dans le tas.
Ben oui. En fin d'entrevue avec Didier Ormejus, il était déjà dans une humeur pas très agréable. Puis là, finalement, il voit que la mêlée est en train d'éclater en arrière de lui.
Écoute, il y a un joueur, je sais que le site Third Down Nation, qui suit les activités de la LCF, l'a identifié après le match. Là, moi, ma mémoire me fait défaut, mais il y a un gars des Lions, crampe au cerveau, qui s'est dit « Hey, c'est une bonne idée, mais aller écœurer les Alouettes dans leur vestiaire. »
Ben oui.
Puis là, à un moment donné, t'as une certaine marge de manœuvre. Là, tu peux aller narguer les gars peut-être le long des lignes de côté, même si une fois que le match est fini, habituellement, les gars se retrouvent sur le terrain, se font des accolades, il y a des groupes de prières qui se forment un peu partout. Mais là, lui, il a décidé qu'il allait écœurer les Alouettes dans leur vestiaire. Évidemment, ça n'a pas passé. Est-ce que quelqu'un l'aurait poussé? Est-ce qu'il aurait répliqué avec un coup de poing? Là, on a eu plusieurs versions après le match, mais de toute façon, ça n'a pas plu. Et là, il y a eu un attroupement. Et puis, ce que Jason Moss disait après le match, c'est peu importe la situation, je pense pas qu'il y ait aucun joueur dans cette ligue-là qui devrait penser que c'est une bonne idée d'entrer dans le vestiaire de l'autre équipe après une rencontre. Surtout pas une rencontre qui avait été quand même émotive, là, dès le début du match. Ça se lançait des invectives, il y avait souvent des attroupements après les sifflets. Il y avait de l'électricité dans l'air pour cette rencontre-là. Et ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase après le match. La Ligue va sûrement sévir. Là, habituellement, le jeudi, il y a des sanctions qui sont annoncées pour la semaine précédente. Je suis certain que des deux côtés, on va sévir. Écoute, il y a eu des pénalités de conduite antisportive, au moins 3 dans ce match-là, si c'est pas 4. Il y en a eu de chaque côté. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette rencontre-là, puis ça a débordé.
Ouais, puis tu sais, c'est un match pour hommes, là, tu sais, McLeod Bethel-Thompson, là.
J'ai fait frapper
un mur, là. Ouais. Si bien qu'il a demandé, Caleb Evans a dû le remplacer. T'sais, tantôt, on parlait d'occasion ratée, là. Caleb Evans qui fait une dérobade vers la gauche, là, puis finalement qui décide d'y aller pour la passe profonde, alors que je pense que c'est Travis Tice qui est devant lui, là, tout seul, là. Tu sais, t'es un carrière réserviste. Prends ce qu'on te donne.
Sneed,
là.
Ouais.
C'était Tyler Sneed.
Ouais.
Bon. Hey, Colin,
c'était Sneed qui était en avant. Peut-être les mains les plus sûres de toute l'équipe en plus, là. Ben non, on était.
T'as une verge gratuite, là, dans ta face, là.
Ouais. Ah, c'est épouvantable. J'étais assis à côté d'Éric Leblanc de RDS.ca sur la galerie de presse, puis tout de suite, si nous autres, on a vu que Tyler Sneed était libéré, comment ça se fait qu'un corps professionnel l'a pas vu? Ouais. On se l'a demandé.
T'as confirmé qu'on l'a tout vu à TV aussi. Salut Fred, merci beaucoup.
Voilà.
On s'en parle demain.
Salut Fred.
Bonne journée.
Bye bye.